Moulin la radio.
Installez-vous.
Installez-vous.
Installez-vous. Vous êtes bien sur
Radio Moulin.
Vous êtes bien sur Radio Moulin.
Vous êtes bien sur Radio Moulin.
Alors moi, je m'appelle Philippe, je suis militant à la Ligue des droits de l'homme. Et c'est une association, une organisation qui est très présente à Lille puisqu'on a 250 adhérents et qui milite, comme son nom l'indique, pour les droits de l'homme. Notre programme, il tient en une phrase. On est des militants pour que tout le monde puisse bénéficier de tous les droits partout dans le monde.
D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à l'espace jeune de la maison de quartier Les Moulins. Et l'idée de cette rencontre, c'est justement en fait, de sensibiliser les jeunes sur leurs droits, aussi sur le contrôle de faciès. Mais que doit faire un jeune quand il est confronté à un contrôle de faciès ?
Alors aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les jeunes, ils vont être très démunis par rapport à ça et très résignés. Et c'est justement ce pourquoi nous, à la Ligue, au niveau national, on a développé une application qui sera déployée nationalement à partir du mois de janvier, qui permettra à des jeunes et à des moins jeunes d'ailleurs de signaler en fait des faits de contrôle discriminatoire dans le respect de l'anonymat et dans le respect de des données personnelles, mais cela permettra, on l'espère, d'objectiver, de rendre visible une réalité qui est extrêmement importante dans notre pays aujourd'hui, mais qui est quelque part invisibilisé, démenti par les pouvoirs publics qui estiment que comme il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. Or, nous estimons que même s'il n'y a pas de plainte, il y a un problème aujourd'hui en France sur les contrôles aux faciès.
D'accord. Et du coup, vous mettez en place justement une application. Et on sait aussi souvent les personnes qui sont victimes de ces contrôles aux faciès, c'est souvent des personnes étrangères. Mais est-ce que cette application, elle est accessible à tous, notamment il y a des gens qui peuvent être confrontés à ça, mais qui ne savent même pas forcément s'exprimer en français. Est-ce que c'est accessible pour eux aussi ?
Alors, on a en projet et on espère bien que ce sera effectif dès le lancement qu'on a prévu en janvier, une version en anglais et une version en arabe, justement pour permettre à des publics qui ne maîtriseraient pas bien le français de pouvoir, eux aussi et elles aussi, signaler en fait, qu'elles ont été victimes d'un contrôle discriminatoire.
D'accord. Et pour signaler cela, est-ce qu'il y a un temps, par exemple, au-delà de 2 mois, c'est plus la peine de signaler ou on peut signaler à tout moment, à partir du moment où on est victime d'une discrimination ?
Non, c'est sans limitation de temps. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de pouvoir obtenir un certain nombre d'informations sur quand, où et de quelle manière s'est pratiqué le contrôle discriminatoire. Quel effet, d'ailleurs, ça a produit aussi sur la personne sur qui le contrôle discriminatoire a été pratiqué. Mais il n'y a pas d'élément, on va dire, qui empêche de relater des faits, en fait, qui sont plus anciens. Il y a une possibilité de datation, en fait, des faits sur l'application qui permettra de relater des faits qui remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années.
Est-ce qu'une fois, par exemple, les signalements sont faits, cela entraîne une action en justice ou pour un premier temps, c'est de faire répertorier tous ces signalements et après, derrière, faire des actions en justice. Comment ça se passe en fait ?
Alors, on a prévu dans l'application la possibilité pour ceux qui le souhaitent, au-delà des faits qu'on leur demande de relater, se tourner vers soit la Ligue des droits de l'homme, soit le défenseur des droits, qui est l'entité publique, qui est chargée de recueillir aussi ce type de fait et d'agir suite à la dénonciation de faits de ce type. Donc il y a la possibilité effectivement de coupler cela à une action en fait auprès de la justice. Mais c'est à la libre appréciation de ceux qu'on invite à utiliser l'application. Le but premier, il est d'abord aussi de donner la mesure en fait de la réalité statistique dont on parle, hein, puisque c'est à peu près 48 millions de contrôles d'identité chaque année dans notre pays, et on fait l'hypothèse qu'il y a une part non négligeable, pour ne pas dire ultra majoritaire, de ces contrôles qui ont un caractère discriminatoire. Donc on est quand même en train de parler d'une réalité qui se chiffre non pas en dizaines, mais probablement en centaines de milliers d'occurrences chaque année. Hein, donc, mais tant que cette réalité-là n'est pas objectivée d'une manière ou d'une autre, on aura toutes les peines du monde à faire en sorte que la puissance publique reconnaisse la réalité du caractère discriminatoire d'un nombre très conséquent de contrôles d'identité.
D'accord. Et du coup, aujourd'hui, quand vous parlez d'actions, par exemple, à mener en fonction de la volonté aussi de ceux qui signalent, est-ce que c'est des actions collectives ou c'est cas par cas ?
Alors, il y a une première visée, effectivement, qui est la visée statistique chiffrée. Il peut y avoir, là encore, à la libre appréciation de ceux qui utiliseront l'application, en fait, la possibilité d'intenter une action, on va dire, individuelle, isolée. Si on a un contrôle en particulier qui a donné lieu à des faits, on va dire, particulièrement condamnables, hein, des violences, il y a la possibilité aussi de traiter un cas individuel en tant que tel. Donc, en gros, les deux visées sont possibles, mais la personne qui jugera, en fait, hein, des suites individuelles à donner éventuellement, bah, c'est précisément la personne qui en a été victime. Hein, donc ça, mais ça, il n'y a aucun caractère d'obligation. Hein, c'est chacun, hein, qui se saisira et qui utilisera l'application qui pourra cliquer ou cocher la case « Je souhaite pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir intenter une action en justice ».
D'accord. Et pour finir, je veux juste poser cette dernière question. Comme on parle de contrôle au faciès, mais sur quel motif on peut vraiment être contrôlé par la police ?
Alors, la police peut légitimement contrôler votre identité dès lors qu'elle dispose d'informations, en fait, qui lui donnent à croire que vous avez été responsable ou complice de faits pénalement répréhensibles. Donc ça, c'est vraiment le cadre. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une présomption de participation à des faits délictueux, la police est tout à fait autorisée à pratiquer un contrôle d'identité. En revanche, ce qui lui est explicitement interdit de faire, c'est de pratiquer un contrôle d'identité sans motif, et a fortiori, si le seul motif, c'est des critères liés à l'appartenance ethnique, l'apparence, en fait, de la personne. Ça, le code de la sécurité intérieure, les éléments qui régissent l'action des forces de l'ordre sont très clairs à ce sujet, en fait. Hein, et le fait d'être, je sais pas moi, visiblement sikh ou visiblement noir ou arabe, bah non, ça n'est pas un motif pour demander à qui que ce soit de produire ses papiers d'identité.
D'accord, et juste dire c'est sur ordre du préfet, je vous contrôle, cela justifie tel un contrôle ou c'est pas, ça peut pas
justifier. Mais le préfet ne peut pas donner d'ordre en fait qui soit contraire à la loi. Non, il peut y avoir en fait des fouilles qui sont effectivement autorisées sur instruction d'un procureur. Hein. Ça c'est un cas tout à fait classique, hein, dans des départs de manifestation. Donc il y a des circonstances très limitées et bien balisées en fait où effectivement les forces de l'ordre sont fondées à vous demander de présenter ce que vous avez dans votre sac. C'est une chose. Ça n'est pas la même chose que de dire que ceci les autorise à demander à tout un chacun de produire des papiers d'identité. Mmh. Non, il y a normalement des circonstances quand même qui sont clairement définies, hein, qui n'autorisent pas des contrôles d'identité généralisés sans motif.
D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à ces questions.
Merci à vous.
Si vous voulez, on va peut-être commencer par le commencement. On vous a dit on est militant à la Ligue des droits de l'homme. Militant, ça vous dit quelque chose ? C'est quoi pour vous, en fait, un militant ? C'est un mot que vous avez déjà entendu ou, vous savez ce que c'est ?
Vas-y, c'est ouais, des citoyens.
Ouais, c'est ouais, des citoyens, c'est bon début, t'as raison, ouais. Mais tous les citoyens, ils sont militants, tu penses ? Oui. Qu'est-ce qui fait que voilà, c'est un certain type de citoyen ? Je sais pas. Oui. Bah, ça veut dire quelqu'un qui est un peu impliqué, engagé. Dans une organisation souvent en fait, hein. Donc ça peut être dans un syndicat, ça peut être dans un parti politique, dans une association, mais c'est quelqu'un qui donne de son temps pour de l'action collective, quoi, pas juste pour lui, mais pour des causes auxquelles il croit. Et la Ligue des droits de l'homme, ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler de cette organisation? Non, ça vous dit rien? C'est normal. Et c'est pas grave.
C'est pas grave.
Mais c'est une des plus vieilles associations en France, hein, puisque ça existe depuis 1898. Et comme son nom l'indique, en fait, nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est les droits humains, tous les droits. Et le programme de l'organisation, il est très très simple. Il tient en une phrase. Nous, ce qu'on défend, c'est tous les droits pour tous et toutes et partout. Donc c'est très simple. Et dans les droits qu'on défend, bah, y a le droit à pas être discriminé, le droit à être traité de manière respectueuse, civile par les forces de l'ordre, le droit à avoir accès à la santé, à l'éducation, c'est le droit international aussi par rapport à la situation palestinienne. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse, quoi. C'est faire en sorte que les droits, bah, c'est pas juste un truc qui est écrit sur le papier, mais quelque chose qui fait partie de la vie de chacun et qui fait que chacun est respecté en fait dans ce qu'il est. Alors je vous explique rapidement pourquoi on est venu vous voir, parce qu'on on fait une grande manifestation le 10 décembre à Saint-Sauveur, donc c'est sur une partie de l'après-midi, la soirée. Et si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, on serait drôlement content que vous veniez. Et la thème Saint-Sauveur, vous voyez où c'est, hein, c'est juste de l'autre côté du parc Le Bas, là où il y a une gare et tout ça, hein, quand vous allez vers la mairie, en fait, hein, il y a le parc et tout, et c'est à côté. Et on va rassembler pas mal de monde en fait pour discuter du sujet qui nous préoccupe et qui explique un peu qu'on soit venu vous voir. C'est la question des discriminations liées à l'origine. Vous savez, discrimination, ça vous dit quelque chose? C'est un terme qui vous est familier ou pas? Ouais, dis-moi.
Quand on se moque de quelqu'un, une répétition, non?
Alors ça, c'est du harcèlement plutôt. Tu vois, à l'école, subir du harcèlement, non, c'est pas tout à fait ça.
La discrimination, il y a le racisme.
Oui, ouais. Oui, mais le racisme, c'est une des principales discriminations, effectivement.
Et c'est, ouais. Mais il n'y a pas que pour ça. Alors, discriminer, déjà, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu traites quelqu'un de manière différente que les autres, en raison de sa religion, en raison de son âge, en raison du fait que c'est un homme ou une femme, en raison de là où il vient, en fait. Donc il y a beaucoup de formes, malheureusement, de discrimination. Ça peut être aussi une discrimination si tu es handicapé. Tu vois, dire non, toi t'as pas droit, alors que les gens qui sont handicapés, ils ont les mêmes droits que tout le monde. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Les gens qui sont d'origine algérienne, ils ont les mêmes droits que les gens qui sont pas d'origine algérienne, et ainsi de suite. Et là, une discrimination, en fait, c'est. Donc c'est ça une discrimination, c'est que tu traites quelqu'un pour. Par exemple, pour avoir un logement, pour avoir un emploi, pour avoir accès aux loisirs, tu vois. Et où parce que la personne, elle n'est pas comme les autres, tu vas lui refuser un droit, en fait. C'est ça, discriminer. Hein, c'est dire, mon appartement, je ne le loue pas à des Arabes. Ça, c'est une forme de discrimination. Et à votre avis, c'est pas très bien, c'est clair, mais c'est plus que pas très bien. À votre avis, c'est autorisé par la loi, ça de...
Non, c'est puni.
Ouais.
Par une amende.
C'est vrai, ça peut être lourdement puni, hein, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Hein, donc s'il est prouvé que tu as eu un comportement discriminatoire, tu peux te retrouver devant la justice. Et si on prouve que c'est effectivement ça que tu as fait, tu peux avoir... Pardon ?
Même si t'es mineur.
Alors, si t'es mineur, c'est une justice qui est différente. Et je dirais que les mineurs, ils n'ont pas forcément la possibilité de te discriminer. Parce que là, on a parlé par exemple de quelqu'un qui ne va pas te laisser rentrer quelque part, qui ne va pas te louer un appartement, qui va... Et donc ça, c'est plutôt des adultes en fait qui vont exercer ces choses-là. Un mineur, il a moins de capacité en fait de faire du mal à quelqu'un. Il peut se moquer, etc. Et dans ce cas-là, peut-être, on va lui expliquer que c'est pas bien. Il faut vraiment qu'il ait fait des choses très graves pour se retrouver devant la justice, en fait.
Bonjour.
Mais par bonjour. Mais par contre, si comme mineur, tu es victime d'une discrimination, tu as le droit de te plaindre. Ouais. Bien sûr. Ouais. Tu as le droit de
porter plainte. Les mineurs, ils doivent être protégés aussi contre la discrimination. Vas-y.
Parce qu'il y a une personne mineure qui discrimine une personne mineure.
Oui, c'est possible, mais ça va être plus, tu vois, ouais, je veux pas que tu joues avec nous, etc. Et du coup, c'est mal. Il va se faire rappeler alors certainement par les animateurs ou les profs, par des adultes. Mais c'est pas la même gravité que quand tu veux pas louer un appartement à quelqu'un. Ça n'a pas les mêmes effets sur les personnes. Et comme c'est des mineurs, de toute façon, ils sont pas jugés comme les adultes. C'est normal, c'est pas le même niveau de responsabilité. Ils sont encore en train de faire leur éducation, donc peut-être qu'ils vont comprendre que c'est mal. Tandis qu'un adulte, bah, s'il n'a pas compris que c'est mal, il y a un vrai problème.
Ouais, c'est clair. Bah, donc nous, c'est pour ça qu'on est venu, c'est parce qu'on a... donc on est dans une organisation, en fait, hein, qui lutte contre les discriminations et le racisme. Et en particulier, il y a un point donc, qui va beaucoup nous occuper cette année. C'est une forme de discrimination hyper courante dans notre pays. En fait, c'est ce qu'on appelle les contrôles aux faciès. C'est le fait que les forces de l'ordre, elles vont souvent avoir tendance à aller demander leur papier d'identité à des gens, en choisissant les gens pas au hasard, mais en demandant plutôt à des gens qui sont... d'origine maghrébine, d'origine africaine, étrangère, globalement, leur papier. Vous avez une idée de combien de fois par an, en fait, les forces de l'ordre, elles demandent à des gens leur papier, à votre avis? Alors,
quoi? Toute la police.
Toute la police de toute la France.
Et
c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. En fait, on estime qu'il y a...
4 millions.
C'est plus près, déjà. En fait, on estime qu'il y a 47 millions en fait, de contrôles d'identité en France tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a 65 millions de Français à peu près à la louche. Ça veut dire que quasiment tous les Français, en fait, ils peuvent, dans l'année, se voir demander leur papier par un agent des forces de l'ordre. C'est énorme, hein, 47 millions. Et en fait, quand on regarde, à votre avis, les policiers vont... plutôt à qui qu'ils vont demander leur papier?
Les Arabes, les Noirs.
Les Arabes, les Noirs, ouais, t'as raison. Ouais, ouais. Mm. Et les gens comme moi, ouais, les Blancos, là, dans mon style, 80% des gens comme moi, en fait, il y a des sondages qui disent « Moi, on m'a jamais de ma vie demandé mes papiers. »
Jamais.
Ouais. Que tu as 8 Français qui ne sont pas ou noirs ou arabes ou asiatiques, 8 Français sur 10 qui disent « Moi, on ne m'a jamais demandé de ma vie mes papiers dans la rue. » Jamais. Et moi, je peux vous le dire, j'ai 53 ans, jamais dans toute ma vie, il y a un policier qui m'a demandé ma carte d'identité. Jamais. En revanche, il y a des gens, en fait, hein, probablement dans le quartier, à qui ça peut arriver une fois par semaine, jusqu'à 2 ou 3 fois par jour, en fait. Et ça, c'est pas normal, parce que, à votre avis, ils ont le droit, les policiers, de demander aux gens leur papier?
Oui.
Ouais. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'ils ont le droit. Ouais. Mais à votre avis, c'est un droit comme ça? Ils peuvent faire comme ils veulent, quand ils veulent.
C'est quand quelqu'un est suspect, non?
Ouais, il faut qu'ils aient une bonne raison de te demander tes papiers. Faut qu'ils faut qu'ils aient des informations qui laissent entendre que tu es en train de commettre un délit. Ok, dans ce cas-là, ils ont le droit de demander de faire un contrôle d'identité. Mais s'ils n'ont aucune raison, pas d'informations particulières, bah théoriquement, ils sont censés pas demander les papiers, en fait. Hein. Et c'est même interdit explicitement pour les forces de l'ordre de faire un contrôle d'identité pour des raisons discriminatoires. C'est-à-dire que, clairement, dans les règles du jeu, pour les policiers, c'est écrit noir sur blanc, vous ne pouvez pas pratiquer un contrôle d'identité si la seule raison,
C'est parce que le monsieur, il est arabe ou la dame, elle est africaine. Ça, c'est clairement interdit. Ils n'ont pas le droit de faire ça, en fait. Or, à votre avis, ça, cette réalité-là du contrôle d'identité, elle est hyper banale. Ça vous est déjà arrivé à vous qu'il y a un policier qui vous demande vos papiers? Et à vos grands frères ou vos parents?
Ah oui.
Ouais.
Ouais, ça oui.
Est-ce que vous avez est-ce qu'on vous a déjà raconté comme ça des interactions?
Non, on m'a déjà posé la question où j'habite où et tout.
C'est vrai? Un
policier?
Ouais. Et ils nous posaient des questions pendant longtemps et on ne pouvait pas partir.
Ce jour-là, on était au centre et on regardait un match. Et avec deux copains à moi, on était sortis prendre l'air. Et il y avait une équipe de là-bas qui sont venus, qui nous ont interpellés. Et ils nous ont demandé le numéro de téléphone de nos parents, tout ça. Et il y a un copain à moi qui a voulu s'exprimer. Et il y a un policier, il a dit à mon copain, ferme ta gueule, je vais t'envoyer une tafiole. Et ça fait, on est resté avec eux pendant 30 minutes. Ils ont cherché à appeler nos parents. Et on savait pas trop quoi faire. Et on était choqués. Bah, je comprenais pas pourquoi ils sont venus pour nous, quoi. J'avais 12 ans. J'ai déjà assisté à des scènes comme ça. Bah, c'était devant le centre.
Un jour, on est parti à Kinépolis avec le centre. Avec un groupe d'adolescents entre 14 et 15 ans. Du coup, on est parti au Kinépolis, on a pris notre ticket et directement à l'entrée, une dame qui travaillait là-bas, elle nous a dit « Faites attention, je garde un œil sur vous, directement. » Du coup, on est parti pour regarder le film, on a pris des pop-corns, etc. On est parti, puis ensuite, il y a un monsieur de la sécurité qui est venu pour nous dire de sortir sans raison. Du coup, ils nous ont fait sortir comme des malpropres. On est sortis. Farida a d'abord discuté avec la responsable de Kinépolis. La responsable nous a dit « Vous pouvez rester, mais plus de bruit et tout », alors qu'on n'avait absolument rien fait. Elle a dit d'abord qu'on pouvait rester, sauf que la sécurité, elle a insisté pour que nous, on partait. Elle voulait à tout prix qu'on partait. Du coup, on est sortis de la salle. Et quand on est sortis de la salle, on a vu une équipe de policiers, à peu près 15 policiers. On les a tous vus. Ils nous ont tous fouillés un par un. Ils nous ont parlé extrêmement mal. Ils ont dit à un des garçons avec nous, espèce de petit puceau, toi tu fermes ta main. Après ils nous ont traité de chiens, etc. Ils ont pris nos pop-corns, ils ont jeté par terre. Ils nous ont fouillés, ils ont demandé nos papiers. Après ils nous ont fait sortir par derrière. Et quand on est sorti par derrière, c'était une sortie trop bizarre. Il n'y avait que de la boue, de l'herbe. Il y en a plein qui sont tombés dans la boue. Puis ensuite ils nous ont tous gazés. Surtout un garçon encore qui était avec nous, il les a gazés dans l'œil. Et du coup, bah, on est sortis comme des malpropres et voilà. J'avais 14 ans. Je me suis sentie choquée du coup, parce que je ne m'y attendais pas. On regarde un film, on sort, on voit que des policiers, c'était choquant.
Oui, ce jour-là, j'étais avec mon père ici à côté de chez moi. On avait fini une balade à vélo et on voulait aller voir ce qu'il y avait à la fin d'un quai. Vu qu'il y a une gare à côté de chez moi. Et quand on est arrivé à la fin du quai et qu'on est parti sur le retour, et ben, on a vu la police arriver du pont qui était sur les rails, enfin en hauteur des rails. Et cette police-là nous a fait un contrôle au faciès en nous demandant nos papiers. Alors qu'on était juste sur notre vélo, sur le quai. Et du coup, bah, j'ai eu peur. Et je me suis dit que ça se fait pas parce que y avait des gens qui passaient sur les rails pour aller à l'autre bout du quai. Ou qui étaient actuellement eux aussi sur leur vélo. Et du coup, bah, moi j'ai eu peur et je me suis sentie mal. J'avais 8-9 ans, maintenant j'ai 13 ans.
À votre avis, pourquoi c'est compliqué de porter plainte dans ces cas-là? Bah ouais, c'est un peu... Tu vas à la police pour porter plainte contre la police. Ça peut être compliqué.
C'est ce qu'on appelle juger parti, c'est-à-dire, en fait, voilà, ils vont défendre effectivement leurs collègues et ils vont pas souvent pas vouloir porter plainte, enfin prendre la plainte, effectivement. Et du coup, c'est un des problèmes dont on est venu discuter avec vous aussi.
Ouais. Parce que là, bah, c'est aussi pour ça qu'on venait, quoi. Il y a deux choses. Hein, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous, vous êtes témoin, en fait, hein, de choses, voilà, qui, de comportements discriminatoires comme ça, c'est clairement un comportement discriminatoire, il y a d'autres solutions que d'aller à la police, en fait. Il y a un truc qui s'appelle le défenseur des droits, en fait. On a ramené, si vous voulez, ça vous intéresse, hein, de la doc. Hein, c'est un truc, il y a des numéros, des choses comme ça. Et vous pouvez relater les faits, en fait, hein, dont vous avez été victime. Et le boulot du défenseur des droits, c'est d'aller demander aux forces de l'ordre des comptes en disant, voilà, il y a un témoignage qui nous est parvenu avec bah, des vidéos, c'est bien, il y avait des vidéos. Et là, ouais, ça permet d'éviter d'aller porter plainte directement à la police, parce qu'on sait très bien que ça va être compliqué. Bah, le défenseur des droits, qui existe partout en France, hein, il y a des permanences du défenseur des droits dans plein d'endroits, à Lille et partout en France, en fait, qui permettent de dire... Là, je pense que j'ai été victime de discrimination. Alors, c'est pas que par rapport aux forces de l'ordre. Hein. C'est si tu cherches un appart et qu'on te dit, bah non, non, l'appart, désolé, je vous le loue pas, vous êtes arabe, machin. Enfin, dès que vous êtes témoin et victime ou victime de faits qui sont des discriminations, vous avez cette possibilité-là, en fait, hein, d'aller vous tourner vers le défenseur des droits. Et son boulot, bah, ça va être de faire en sorte que les forces de l'ordre... reconnaissent qu'elles ont merdé, qu'elles ont fait quelque chose qui n'était pas autorisé. Si vous voulez, on a des dépliants, je pourrais vous les laisser. Et nous, il y a un autre truc sur lequel on va travailler, c'est on a développé une application qu'on peut mettre sur son téléphone et qui permet, en fait, si notamment pour ce qu'on appelle les contrôles au faciès. Ouais. Pour le faciès, à votre avis, c'est quoi? C'est quand la police vous demande vos papiers, pas parce que vous faites quoi que ce soit de mal, mais parce que voilà, vous êtes arabe, vous êtes noir, voilà, et qu'il n'y a pas d'autre justification que ça. Et ça, bah, comme on le disait tout à l'heure, ça arrive plein de fois, tous les jours, en fait. Et c'est complètement gratuit, vous voyez. Si vous allez dans la rue et chaque fois que vous faites un truc, on vous demande vos papiers, au bout d'un moment... forcément ça saoule, et le problème c'est que quand notre organisation, la Ligue des droits de l'homme, elle va voir le ministère de l'Intérieur pour dire là il y a un problème, vous savez ce qu'ils nous répondent? Ils nous disent bah non, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui porte plainte. Donc nous, ce qu'on veut essayer de faire, bah, c'est de démontrer que cette réalité là du fait que quand on a voilà, quand on s'appelle Brahim ou Mouloud machin, bah, on a vachement plus de chances au quotidien d'être emmerdé alors qu'on fait rien. Et ça, c'est juste pas normal, parce qu'on est normalement tous égaux devant la loi, et on doit être tous égaux devant les forces de l'ordre. Ils n'ont pas le droit de traiter qui que ce soit de puceau ou d'emblée considérer que vous êtes des délinquants. Mais voilà, y a, en tout cas, c'est nous, c'est une idée. C'est de faire en sorte que plus de gens possible disent « Voilà, ça m'est arrivé, ce contrôle, tel jour, tel endroit, c'était tel type de force de l'ordre. Voilà la manière dont ça s'est passé. » Vous savez comment ça peut se passer des fois un contrôle d'identité? C'est pas juste le monsieur qui va vous voyer gentiment en disant « Vos papiers, s'il vous plaît. Hein. » Qu'est-ce qui va se passer souvent dans un cas de contrôle d'identité quand il y a un policier qui va demander à quelqu'un comme ça ses papiers? Qu'est-ce qui va se passer très souvent?
Du coup, on va être agressif.
Ouais, déjà, les forces de l'ordre vont être agressives. Elles vont mal parler aux gens, elles vont les insulter. Ouais, elles peuvent des fois utiliser la contrainte physique.
Elles vont menacer.
Pousser, avoir un comportement menaçant, ouais. À votre avis, qu'est-ce qui se passe aussi? Qu'est-ce qu'ils vont faire très souvent, en fait? Je suis sûr qu'ils le font régulièrement là, au point de deal qui est en face de l'espace. Pardon ?
Ils vont pas demander, ils vont le prendre directement.
Les papiers ? Non, ça, ils vont à chaque fois au moins te demander de les produire, mais ils vont pas faire que te demander les papiers. Souvent, ils vont faire autre chose.
Ils vont t'attraper directement.
Ils vont fouiller.
Ou ils vont fouiller, ouais. Ils vont fouiller, ils vont demander de vider les poches, ils vont demander de fouiller. Ils vont faire ce qu'on appelle aussi des palpations au corps.
Il y en a aussi, ils mettent des trucs dans ta poche en cachette.
Ah, ils peuvent, s'ils sont vraiment salauds, ouais. S'ils sont vraiment pourris, ouais, ils peuvent mettre des trucs, une barrette de shit dans ta poche et dire « Ah, mais c'est quoi ça ?» Et oui, ça, j'imagine qu'ils peuvent. C'est sans doute possible.
Souvent, ils prennent le téléphone aussi. Souvent, ils demandent les choses maintenant, ouais.
Ouais, ils demandent le code et il les tabasse s'ils ne donnent pas le code. Ouais. Ça, on a, nous a déjà raconté ça.
Ouais. Mmh. Ouais, ça, c'est pour ça que nous, on veut faire en sorte que l'État, le ministère de l'Intérieur, le chef des flics, ils puissent plus nous dire « Bah non, il n'y a pas de problème, personne se plaint. » En fait, hein, donc en récoltant des infos, alors pas nécessairement dans des situations où les gens vont être frappés, alors ça peut arriver, mais ça nous intéresse encore plus de porter des actions en justice, mais que le ministère de l'Intérieur puisse plus dire « Oh bah en fait, tout va très bien en France. » Ça n'existe pas, les contrôles aux faciès. Non, 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 non. Et ça, nous, notre organisation, ce qu'elle sait très bien faire, c'est intenter des actions en justice contre l'État, en fait. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que les policiers, ils sont obligés de porter quelque chose sur eux. À votre avis, c'est quoi?
C'est pas le gilet.
Alors, ça c'est. Alors, ils ont leur équipement, ils ont leurs
quand
armes.
Ils viennent de force chez
leur truc de policier. Uniforme, leur
carte. Alors, ils doivent avoir une carte de police.
Leur numéro, monsieur.
Leur mandat,
ouais,
voilà.
C'est ça. Ils sont obligés, normalement, de porter un numéro d'identification. Ça s'appelle le RIO, en fait. Hein. C'est le numéro qui permet de savoir. Voilà, c'est quelqu'un qui membre des forces de l'ordre et qui est de ce fait-là identifiable. Donc s'il fait quelque chose de pas bien, bah, du coup, vous pouvez précisément dire la personne qui m'a tapé, c'est voilà, le numéro un tel. Et ça, c'est pas au choix, hein, pour les policiers. Je le porte ou pas, c'est vendredi, non, je le mets pas. Non, ils sont obligés de l'avoir tout le temps sur eux dès qu'ils sont en service. Pardon ? Eh ben ouais, il y en a des fois, ils le mettent pas.
Souvent d'ailleurs,
ils le mettent pas. Souvent, mais d'ailleurs, ils le mettent pas. Alors, je parlais de ça parce que, en fait, la Ligue des droits de l'homme, en fait, on a, là aussi, intenté une action en justice, en fait. Nous, on a porté plainte contre le ministère de l'Intérieur, le ministère qui s'occupe de la police, pour dire, c'est pas normal que beaucoup d'agents de police portent pas leur numéro d'identification alors qu'ils doivent. Cette affaire-là, hein, c'est un tribunal particulier, hein, qui s'en occupe, qui s'appelle le Conseil d'État. C'est le tribunal qui s'occupe, voilà, des affaires où la personne qui est mise en accusation, c'est l'État. Et le Conseil d'État finit par donner raison à notre organisation pour dire « Bah ouais, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de policiers qui ne portent pas leur numéro d'identification. Donc, il y a une décision de justice qui oblige le ministère de l'Intérieur à s'assurer que les forces de l'ordre portent effectivement leur numéro d'identification. » Et donc là, pour les contrôles aux faciès, bah, c'est la même idée. C'est plutôt que tout le monde, notamment le ministère de l'Intérieur, fasse semblant que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, bah c'est parce que les citoyens, ils auront dit, voilà, tel jour j'ai été contrôlé de telle manière, que nous on soit capable de dire, regardez, nous on a, je dis n'importe quoi, 10 000 personnes qui nous ont dit sur l'année 2025 qu'ils ont eu un contrôle discriminatoire. Et là, du coup, bah, ce sera plus possible pour le ministère de l'Intérieur de faire semblant que tout va bien. Il faudra qu'ils reconnaissent que oui, effectivement, il y a, de la part des forces de l'ordre, une manière de cibler en particulier une partie de la population. Et ça, c'est pas normal, parce que là encore, le principe de base, bah, c'est qu'on est tous égaux devant la loi, en fait. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'il y ait une partie de la population qui soient plus emmerdés que les autres parce qu'ils n'ont pas le bon nom, la bonne adresse ou la bonne couleur de peau. Ça, c'est juste pas normal. Et c'est pas juste pas normal. C'est illégal, en fait. Et ça doit être poursuivi en justice. Donc c'est pour ça qu'on est venu vous voir, hein, pour discuter de ça. Je sais pas si Julie, tu veux...
Juste dire une chose.
très souvent, on vous dit, bah, vous, vous avez des devoirs, la loi s'applique, etc. Les policiers aussi, ils ont des devoirs, en fait. Et il y a quand même un problème, effectivement, en France, où la police, très souvent, ne respecte pas ses devoirs, en fait. Et très souvent, ils font comme si c'était eux qui faisaient la loi. C'est pas eux qui font la loi, en fait. C'est les élus qui décident ce qu'est la loi. Et donc, un policier, il a pas... Enfin, quelquefois, un policier, il vous dit c'est la loi, et en fait, il a tort. Alors, quand vous êtes face au policier, vous ne pouvez pas trop rien dire, quoi. Mais effectivement, c'est important de savoir à qui vous pouvez aller parler après pour dire « il m'est arrivé quelque chose, là, et je pense que ce n'est pas normal ». Voilà. Et très souvent, effectivement, il y a juste une manière de dire « les choses n'existent pas », par exemple, sur l'histoire du numéro d'identification. En fait, quand un policier fait quelque chose de mal, quelquefois même, il y a des vidéos, etc., donc la justice est obligée de dire bah, « il y a quelque chose de mal qui a été fait par un policier, mais... Ah bah on sait pas qui c'est, il a pas son numéro, on voit pas sa tête. » Et du coup c'est une manière de ne pas sanctionner les policiers qui font des choses incorrectes en fait.
Et là-bas qui doivent avoir leur numéro.
Bah si, ouais, si mais en fait ils le mettent pas. Donc on peut pas savoir qui c'est et du coup quelquefois on reconnaît qu'il y a quelque chose de mal qui a été fait par un policier mais on peut pas savoir qui c'est donc c'est comme si...
Ah donc si un policier nous fait quelque chose, on essaie de retenir son code.
Alors,
n'importe
qui, alors ils vous diront peut-être que vous n'avez pas le droit.
En général, dès que tu sors ton téléphone, ils te l'a rajouté.
Mais la première des choses, c'est le
téléphone. Pourquoi essayer de le retenir ?
Faut essayer de le retenir, mais surtout, effectivement, normalement, la police, elle doit savoir aussi quelle patrouille était à quel endroit, à quel moment. Les policiers, ils vont pas juste où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Hein. Donc, si tu peux retenir le numéro, c'est bien, s'il a son numéro. Mais... Surtout, effectivement, là, cette histoire que vous avez racontée, comme quoi vous étiez devant et ils vous ont mal parlé, etc. Ces histoires-là, il faut en parler, en fait.
Ouais.
Il ne faut pas les garder pour vous, il faut en parler. Vas-y.
Vous avez dit que les policiers ne pouvaient pas être là où ils veulent, au moment où ils veulent.
Ouais.
Bah alors, comment ça se fait qu'à des moments, parce qu'il y a la police qui débarque comme ça, sans rien, pas sans rien, mais comme ça.
Alors, alors, ils peuvent être en patrouille, etc. Et là-bas, ils bougent beaucoup. Mais normalement, leur hiérarchie, c'est-à-dire leurs supérieurs, ils doivent savoir où ils sont. Donc, en réalité, si on veut savoir, il y a moyen de savoir que c'était telle patrouille de là-bas qui était là au moment où, justement, il y a des policiers qui ont maltraité des gens. Donc, je pense que c'est juste que l'État ne se donne pas les moyens pour le savoir. En fait.
Et s'ils sont civils, on ne peut pas avoir le numéro.
Alors même la BAC en fait doit pouvoir porter des signes distinctifs, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir normalement un brassard sur lequel est écrit police et orange et sur le brassard normalement ils doivent porter leur RIO. Sauf que j'ai très rarement vu des agents de la BAC porter le brassard et quand ils le porter leur RIO dessus. C'est hyper rare en fait. Et on fait souvent des manifestations. Y a aussi plein d'agents des forces de l'ordre, en fait, autres que la BAC, qui font exactement pareil. Hein. On fait partie de ce qu'on appelle l'observatoire des libertés publiques et des pratiques policières. Donc on couvre les manifestations, on filme les forces de l'ordre. Et l'année dernière, on filme les forces de l'ordre, c'est-à-dire que on passe comme ça devant eux avec notre téléphone. Comme ça, on voit bien qu'ils portent pas la vraie Rio. Ils nous aiment pas, mais en fait, ils peuvent pas. Ils savent qu'on a le droit. Et ils savent que s'ils nous emmerdent, ils vont être plus emmerdés encore par leur hiérarchie, parce que tant qu'on fait des choses qui, nous, sont pas illégales, et filmer des policiers, ça n'est pas illégal, et ben ils peuvent pas nous embêter.
Si on se fait contrôler par un policier qui ne porte pas son numéro, par exemple, est-ce qu'on peut lui demander de le mettre parce que c'est illégal, il n'a pas le droit de... Enfin, ça justifie aussi qu'il est policier, et sans ça, qu'est-ce qui prouve que c'est pas n'importe qui
Alors, policier, on l'a droit, mais je vais lui demander, après, je sais pas comment il va. C'est un problème.
Mais sur le papier, vous pouvez, parce que si il y a aucun signe distinctif qui est porté par notamment les agents la BAC qui sont en civil, nous souvent hein, on se dit quand on les voit en manif ou ailleurs, ils font plus bandits que policiers quoi.
Tout le monde pourrait.
Donc,
Et c'est pas écrit sur leur tête qu'ils sont policiers. Quoi. Donc si vous êtes interpellé par quelqu'un qui ne porte aucun signe distinctif, bah ouais, vous êtes en droit de dire, attendez, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un agent des forces de l'ordre? Montrez-moi où votre carte ou votre RIO. Ça, vous pouvez le dire. La réaction de l'agent des forces de l'ordre quand vous lui aurez dit ça, voilà, je la connais pas.
J'avais entendu parler d'une histoire qui avait fait la une des médias à une époque. C'est des personnes qui avaient été arrêtées en voiture. Et du coup, il y avait des policiers qui étaient intervenus pour les arrêter en voiture. Simplement, ces policiers n'avaient pas de signes directs actifs, donc les gens, ils ont cru qu'ils étaient attaqués.
Bah ouais.
Ils ont redémarré. Et je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais ça s'est mal terminé pour eux. Voilà. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà été face à des policiers qui ont leur visage masqué?
Oui, des fois, ils ont des masques.
Ouais. Parce que ça non plus, ils n'ont pas le droit.
Ils n'ont pas le droit.
Mais ils mettent des masques au vis, je ne sais pas trop.
Ouais.
Est-ce que... alors, vous comprenez notre démarche. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens...
Si
le...
aussi, je ne sais pas s'ils avaient le RIO et la carte.
Ouais. Ça, c'est... ça, du coup, maintenant, vous savez, quoi. C'est un truc qu'il faut... voilà. Il faut faire attention à ça, en fait. Hein. Et là encore, pas pour emmerder le monde, hein, parce que ça fait partie de vos droits et ça fait partie de leurs devoirs à eux. Vous voyez. Comment voulez-vous qu'ils vous demandent de respecter la loi si eux-mêmes... Et ils ne la respectent pas. Enfin, forcément, ça pose problème. Quoi.
Et même au-delà, ils ont un uniforme. Et du coup, s'ils ont un uniforme, c'est qu'on doit les respecter. Mais le respect, ils se méritent. Quoi. S'ils vous insultent, ils ne méritent pas votre respect.
Donc voilà, nous, on voudrait que... voilà, qu'il y ait, alors, on voit aussi, on voit aussi des parents, des mamans vendredi. Hein, on va avoir la même discussion. Et avec la même idée, c'est pour ceux qui sont OK pour témoigner, raconter, même un incident qui a l'air mineur, même ça, c'est important. Et c'est important que cette parole-là, elle soit entendue. Parce que vous voyez, comme derrière, les forces de l'ordre, elles, leur priorité, c'est de dire « tout va bien ». Si on met pas ça, vous voyez, sur la place publique, si on s'assure pas en fait que les gens qui sont victimes en fait de ce type de comportement discriminatoire se font pas entendre, ça va être difficile de faire avancer les choses. Donc nous, c'est aussi pour ça, voilà, qu'on est venu, c'est recueillir votre parole, votre ressenti par rapport à ce qui vous est arrivé.
Hey, oh. Moulin, la radio.
Installez-vous.
Installez-vous.
Installez-vous. Vous êtes bien sur
Radio Moulin.
Vous êtes bien sur Radio Moulin.
Vous êtes bien sur Radio Moulin.